ne va pas empêcher quelqu'un d'écouter une parole de Torah. Vous m'entendez, évidemment? Non. Alors, est-ce que quelqu'un est mémoré à la... Ça marche? Non. Ça marche?
Oui.
Trop. J'entends un rire. Ah, d'accord. Ça va mieux comme ça. Hein? Bien, nous allons commencer. Je m'excuse pour le retard, mais c'est le retard des retardataires. Et comme chaque année, je vais vous demander que la fois prochaine, vous essayez d'arriver à l'heure. Parce que c'est les premières phrases qui sont importantes pour un vieux de ce genre. Je suis très gêné quand je vous dis de continuer une analyse pour des gens qui n'ont pas entendu le début. Je me demande même, quand c'est interdit par la halakha, mais je me demande même si un jour, en fait, je suis à fermer les portes à une certaine heure. Enfin, c'est interdit parce qu'on ne doit pas empêcher quelqu'un d'écouter une parole de Torah, mais d'autre part, on appelle celui qui écoute un morceau de Torah et comparé à celui qui mange et vers une achal. C'est-à-dire qu'il prend une partie d'un animal vivant pour le manger. Vous savez, c'est une chose très grave, même pour les bien noirs. Alors je vous en prie, vraiment, d'abord pour vous-même, la fois prochaine, le cas échéant, et pour les autres, le cas échouant, si vous dire, essayez de venir à l'heure, parce que vraiment c'est très fatigant. Très fatigant aussi pour les assistants, qui sont obligés d'entendre des bruits de chaise, des retardataires. Alors je demanderai à ceux qui sont assis vraiment au fond, s'il y a des choses plus avant, de prendre les choses avant, qu'il n'y ait pas des brouhahas. Bientôt, ils vont arriver encore des juifs mécaniques, c'est-à-dire des juifs en retard. Et surtout, ne bougez pas. Hein. Et de demander, en tout cas, à ceux qui sont derrière, d'obtenir des retardataires qui ne fassent pas de bruit quand il s'installe. Voilà. Bien que j'ai parlé, personne n'a bougé, c'est pas grave. Je voudrais vous donner... On vous attend. Je voudrais vous donner rapidement le programme de la soirée. Malheureusement, comme je viens seulement d'arriver et je n'ai pas pris la précaution de prendre un dormir, et ça fait bien, ceux qui l'ont lu déjà, ça de quoi il s'agit, je vais vous donner le déroulement par étapes. Alors, le premier cours que je vais faire va porter sur les deuxièmes tables de la loi, et le sujet sera essentiellement centré sur la signification de Simchat Torah à Shemini Chalal Seret, c'est-à-dire la fête qui aura lieu le lendemain de Rosh Hashanah Rabbah qui commence ce soir. Ensuite, il y aura les Sichot qui sont dirigés par David Ben Ezra et par le Rav Azan, par le Rav Ben Ezra et le Rav Azan qui arrivent. Je me suis à l'avance de ne pas discuter avec vous parce que je suis assez fatigué, la voix est comprise. Et après, vous aurez une Arsaka et rendez-vous tout de suite au Nassaz Yahir. On vous servira un kibbout pour permettre à ceux qui continueront la nuit de la continuer à l'aise. Et il y aura un cours parallèle, le Rav Ben Ezra en hébreu, et Koukouzavski, j'ai dit son prénom, Markouzavski en français. Ensuite, une Arsaka et un deuxième cours de Israël Pisco en hébreu et du Rav Atoun en français. Ensuite, vers 4 heures, il y aura le départ pour le Kotel, pour ceux qui veulent prier au Kotel, et il y aura dans tous les cas un office de Rosh Hashanah Rabbah au Merkaz Yair à 4 heures aussi. Et je vais donc pour le programme de la classe. Alors je vais maintenant essayer en quelques phrases de vous dire le plan, plus ou moins simple, de l'équipe que nous allons avoir. Étant donné que vous êtes nombreux, bien sûr vous, on n'a pas prévu de vous donner des livres ou des photocopies, mais j'espère que vous avez déjà écrit. Le cas échéant, vous prendrez les notes de référence pour les étudier la plus tard. Bien entendu, il ne s'agit pas, bien que c'est pas très traditionnel ce que nous faisons, il ne s'agit pas d'une conférence, mais d'un limite. Et à la limite, c'est une étude, c'est pas écouter une conférence. Alors, nous allons étudier ensemble. Je vous demande un peu d'attention, mais vraiment, je vous invite, le cas échéant, pour tel ou tel point que vous auriez à noter, de le réétudier d'autre part sur ce texte. Parce que le sujet que vous avez abordé est un sujet où le fond et la forme doivent coïncider à la lettre. C'est vrai en général pour toute étude. Dès qu'on commence à paraphraser, surtout dans une langue autre que l'hébreu, on croit parler du sujet, mais on est complètement hors-sujet. Il faut toujours qu'il y ait une vérification, dont j'ai dit tout à l'heure, vraiment, dans la forme et le fond coïncident. Et cela, ça ne peut être que si on a un texte qu'on est en train d'étudier. C'est d'un texte qu'on parle. Ceux qui sont familiers avec l'étude du Talmud, c'est l'étude par excellence. Les objectifs sont des études connexes, se relient à l'enseignement du Talmud et étudier la Midrash, la Parchanout, la Kabbalah, tout ce qu'on peut étudier, la Mahashaba, ce qu'on peut étudier. Si on n'a pas aussi le Talmud, il faut savoir à l'avance que c'est en l'air, accroché sur rien, parce qu'on n'a pas la frise du Mikra, c'est-à-dire du sens traditionnel que nous en étalons les lui seul de ce qui est écrit dans la Bible. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que nous allons aborder un sujet important. Et quand on l'a décidé dans le programme à Yaïr, on ne savait pas, en tout cas je ne savais pas personnellement, à quel point les événements contemporains de l'histoire d'Israël se réunissent au sujet que nous allons étudier. Mais je vous demande de séparer ces deux quêtes, ou en quête. Comme vous le savez, nous aurons une soirée à Echal Shlomo lundi soir prochain, où je parlerai des problèmes politiques, mais ce n'est pas du tout le sujet ce soir. Je vous demande, bien que c'est lié inévitablement, mais je vous demande de serrer les deux registres de problématiques. En français, ça se dit une attaquée. Est-ce que 10 heures, ça vous arrange mieux? Non, mais je crois très sérieusement qu'on finira par fermer les portes, sans pitié ni émeute. Ça ne sera qu'une de plus. En tout cas, je crois que je vais aborder le sujet, je savais. La première approche sera une approche historique basée sur la structure du calendrier. Comme vous le savez, lorsqu'on parle de la révélation de la Torah, on fait allusion à deux niveaux. D'une part, à la Torah dans le sens de Torah de Moshe, les cinq livres du Pentateuque, Bereshit, Shmot, Vayikra, Midbar, Dvarim, tout cela c'est Torah révélée, le Mikra du Chumash, le Chamisha, Chumshe Torah. Mais d'autre part, il y a aussi une allusion à un événement historique bien précis, qui est la révélation du Tit Sivan sur le mont Sinaï, où Moïse a reçu les deux tables de la loi, les 10 commandements, comme on dit en français, gravés sur les deux tables de la loi, à charge pour lui de les transmettre. Israël qui avait assisté à l'expérience que je définirai très simplement maintenant, laquelle je vais revenir, que lorsque Moïse parle, il dit bien ce que Dieu lui a dit de dire. C'est là l'essentiel de ce qui s'est passé au Sinaï. Dieu s'est révélé à Moïse, le peuple assistant à cette révélation, de sorte que le peuple ait expérience que c'est bien Dieu qui se révèle à Moïse. Et je dirai tout de suite pourquoi, dans une petite parenthèse, parce que jusque-là, le peuple ne connaissait Moïse que comme chef politique. J'insiste, tous les mots que j'ai employés ont un sens simple, mais un sens plein. Ce n'est pas des façons de parler, parce que ça concerne les problèmes d'identité de l'histoire de notre peuple, et que nous sommes confrontés dans le temps immédiat contemporain à ce problème-là. Avant la révélation du Sinaï, et sauf la tribu de Lévi qui était déjà dans le secret, je ne dirais pas le secret des dieux, ça c'est les Grecs, mais le secret de Moïse, inspiré par Dieu, qu'il y aurait une Torah. Mais jusque-là, la foi d'Israël en Égypte et dans les événements de la sortie d'Égypte est définie par la formule que nous donne la Torah elle-même, l'accomplissement des promesses aux patriarches que les divines prendraient fin. C'était ça la foi d'Israël. Et par exemple, au passage de la mer Rouge, lors de l'événement qui confirme de façon plus évidente, un élément, je dis irréversible, que Moïse avait raison d'être sioniste, comme nous dirions aujourd'hui, c'est-à-dire de mettre fin à l'exil et de ramener le peuple d'Israël qui était en diaspora en Égypte au pays des Hébreux, le pays d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que les chrétiens ont appelé le pays de la promesse, mais le terme qui est employé dans la Torah, dans la Mikra, ce n'est pas du tout une promesse, c'est un serment, le pays que j'ai juré à vos pères. C'est dans le vocabulaire chrétien, christianisant, il est dit que j'ai promis. C'est bien l'intention au ciel, j'ai promis. Et il faut avoir foi dans une promesse. Une promesse, c'est quelque chose qui n'est pas encore accompli. J'avais cité avec mon excellent ami André Chouraki, un grand exégète, un grand poète. Il avait trouvé l'expression, dans sa traduction, le pays de promission. C'est un bon ascenseur. Mais par rapport à la Torah, c'est pas un pays promis, c'est un pays donné et juré et confirmé. Et on va se demander pourquoi il a fallu que Dieu confirme de façon aussi répétée à Israël que son pays c'est vraiment son pays. Et donc il y a un problème dans l'identité d'Israël. Il s'agit du pays des Hébreux, qui à l'époque était occupé par les envahisseurs qui s'appelaient Cananéens, et donc un des peuplades s'appelait les Philistins, et le mot de Philistin en hébreu ça veut dire les conquérants, les envahisseurs. Vous voyez comment les définitions s'inversent et deviennent des calomnies, aujourd'hui, pour le monde entier. Mais malheureusement pour beaucoup de Juifs eux-mêmes, et de leurs rebelles, ce sont les Juifs qui sont les conquérants, les envahisseurs sur le pays des Hébreux. Alors que Christine, en hébreu, ça veut dire les conquérants, les envahisseurs. On a oublié cela. Même l'histoire, j'en parle beaucoup dans mes textes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a bien raison, et on ne comprendra pas notre sujet. Qu'est-ce qui s'est passé au final de Sisyam si on ne comprend pas le choc qu'a eu Israël dans sa relation à Moïse, jusque-là, il était relié à un chef politique qui a mis fin à l'exil, et puis voilà que ce chef politique se révèle, comme je suis traqué, dans un temps on verra le verset dans la tribunelle, et comme un Zaken Malé Rachamim, un Dayam, un rocher qui va représenter la Torah. Imaginez le choc. Et même Moïse, qui était connu pas tellement de temps avant, comme étant le juif le plus assimilé, le paradigme, le modèle du juif assimilé. Je devrais dire l'hébreu, mais je dis le juif, que vous comprenez tout ça pour les juifs. Fils adoptif du pharaon, héritier présomptif du pharaon, élevé dans le palais du pharaon, dans les universités pharaoniennes, selon la théorie, et lui, qui est venu vivre 3000 ans en Arcelle, qu'on a accusé lui-même d'un apparent assimilé, et l'heure de mettre la fin, maintenant à l'exil. Et c'est ce moment-là, enfin reconnu par un cinquième des Hébreux, à propos duquel, au moment du passage de la mer Rouge, comme je citais tout à l'heure, le verset dit, Vayaaminu Bashem Ubmoshe Amdo. Il ne s'agit pas encore du tout de Torah. Il y a quelques mitzvot qui ont été données, n'importe quel peuple à sa religion, et en particulier à l'Inva du Shabbat. Mais je disais tout à l'heure à quel point toute la Torah, c'était la manière d'être et d'érégérer les patriarches que Moïse a transmis à Israël sous forme de Torah. Torah, il a la nomoché, Morasha, c'est la Kéako. C'est un verset que je vais étudier mot par mot. Et voilà donc que on arrive au Sinaï. 50 jours après la sortie. Et là, le peuple va avoir un choc. On va parler d'un lien de bouche, comme ça. Le père va avoir un choc, il va recevoir un message. C'est le début du chapitre 19 de Shmot, notez bien. Le début du chapitre 19, lorsque Moïse transmet la consigne à Israël, sous la forme suivante, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, vous avez vu ce que j'ai fait pour vous. Non seulement les mis à l'exil, mais je les ai amenés vers moi, sur les ailes des ailes, vous deviendrez les prêtres de cette foi-là que l'exil peut prendre fin. Puisque vous avez eu cette expérience, je vous investis comme témoin de cette expérience pour l'humanité entière. Un jour, nous approfondirons un peu ce thème-là. Quel lien y a-t-il ? Et c'est dit plusieurs fois dans le texte du Pentateuque, en particulier dans le début du Deutéronome, lorsque Moïse reprend le récit des événements que je suis en train de citer brièvement. Vous avez eu l'expérience que la fin de l'exil est possible, vous allez devenir le peuple des prêtres de cette foi-là. Et un pays qui nous lit dans Mérède, Kohanim et Goïkado. Il y a eu chez le peuple un choc. On s'attendait à une fin d'exil, je dirais, à un sionisme des sionismes généraux, et puis voilà que Moïse parle comme le rapport. La justification de la spécificité de notre histoire nationale, c'est la Torah. C'est une Torah. La Torah d'une foi dont les Hébreux, ont eu l'expérience, et dont, en tant que modèle, point de départ, Abraham a vu l'expérience. Quand vous lirez le texte du Pentateuque, je serai frappé par le parallèle qu'il y a entre l'histoire d'Abraham, sorti de Haut-Calvin, et l'histoire d'Israël, sorti de l'Égypte. Le style, toute la forme des versets est la même. Quand Dieu s'adresse à Abraham pour dire, il y a celui qui s'est fait sortir d'Haut-Calvin. Et lorsqu'il s'adresse à Israël, à la sortie d'Égypte, pour lui dire, je suis celui qui s'est fait sortir d'Égypte. C'est la même expérience. Qu'a eu Abraham, elle va être érigée en destinée, je ne sais pas du destin, en projet d'identité, d'une nation, qui va apparaître à partir de Jacob, après la sélection d'identité qui fait par Ismaël d'un côté, et les amis d'Ismaël, et dans l'égalité sur la terre d'Abraham, Esaü de l'autre, et vous savez qu'Esaü est en réalité sur le ciel d'Abraham, et finalement nous arrivons de notre temps à prétendre péripéties de siècles, de millénaires d'histoire, à un règlement de compte. Mais semble-t-il, tout le monde sait que ça lui fallait Israël, sauf Jésus, enfin, une grande partie de l'histoire. Et puis, c'est un pouvoir, en tout cas. Et je reviens au sujet, il y a une analogie dans le fond et dans la forme entre l'expérience d'Abraham et l'expérience de la nation d'Israël, ici de Jacob qui vit là chez Abraham. C'est ça la foi d'Israël. La foi d'Israël, ce n'est pas des problèmes de théologie philosophique. Et vous savez que à quel point c'est traditionnel, à travers toute notre liturgie, ne nous adressons pas au premier moteur de l'univers, comme disait Spinoza, la cause première. Est-ce qu'on a quelquefois prié à ce concept philosophique théologique? On s'adresse à celui qui nous a fait sortir de l'Israël, à l'Omaï Sataïkita. Et c'est le grand enseignement, la force de l'enseignement du judaïsme, dans le Kouzari en particulier, est maintenant en évidence. Mais voilà que la foi d'Israël s'est entendue par l'humanité entière, à travers toutes les rivalités que vous savez, à travers toutes les contestations que vous savez, que ce soit du côté de la chrétienté, du côté de l'islam, du côté des trucs humanistes, c'est que la condition de créative est une condition de divinité, et de vie du créateur. Et toutes les créatures, quelles qu'elles soient, que l'on soit consciente ou pas, sont en tête du salut, de la fin d'exil, de la condition créative. Et voilà que l'humanité en question, qui est la conscience de l'univers, mais toute créative est dans cette situation existentielle de se savoir exister dans le vide de l'être, et bien voilà que l'humanité découvre un peuple dont l'histoire est faite par ce rythme d'Alout Géoula. Et on croit au salut d'Israël, parce que le salut d'Israël, c'est le témoignage qu'on peut sortir de la condition d'exil, juste au niveau de la sortie de l'exil métaphysique, de la condition de créature, rendez-vous au Gan-Eden. Et l'humanité finit par croire dans la foi d'Israël, à un point qu'elle se croit Israël, et c'est la raison de l'histoire d'exil. C'est l'histoire d'une contestation d'identité à trois niveaux, la Torah, le peuple, la terre. Et voilà donc ce qu'il en est de Moïse pour Israël jusqu'au fils Sivan. Le fils Sivan, Moïse se révèle comme étant le prophète qui donne la loi. Et alors là, relisez attentivement le chapitre 19 de l'Exode, le peuple était tout à son honneur exil. Il y a un nouveau testament, entre guillemets, qui le dit, que Dieu lui-même vient de révéler. Le verset qui est un miracle très important pour expliquer le verset qui dit que Moïse a rapporté la réponse du peuple à Dieu, mais il l'a expliqué. Il ne sait pas qu'ils m'ont refusé, mais ils veulent que toi tu leur parles. Ils m'ont dit, nous voulons voir le roi. Et il y a un autre miracle qui compare la relation entre Dieu et Israël a une relation d'esclave, d'alliance conjugale, comme disait notre maître, notre mère, et son al-Bracha, et Israël a dit, nous voulons voir le fiancé. Il nous a mariés par procuration, c'est un mariage légal, mais nous voulons voir avec le fiancé. Et c'est tout à l'honneur d'Israël que lorsque le guide spirituel semble changer de discours, on l'exige. Que ça soit vérifiable, on exige que ça soit authentifié par Dieu lui-même. On ne croit pas aveuglément. On ne croit pas parce que c'est absurde. Il n'y a rien de plus absurde qu'une contradiction. Un jour on dit Darab Torah, c'est ça, et le lendemain on dit le contraire. Aucun rapport avec l'Israël. C'est l'Israélien qui insiste. Et en tout cas, c'est vraiment l'honneur d'Israël, celui qui vient de dire nous voulons voir le roi. Nous voulons entendre directement. D'où la réponse de Dieu à Moïse, il n'est ni pas Béhavéhanam, puisqu'il en est ainsi, alors je viens vers toi dans la nuée, dans l'opale de la nuée, s'il n'y avait pas l'opale de la nuée, il serait brûlé, il faudrait que je le protège, ils sont encore à la hauteur de là où était Moïse, de pouvoir être en présence de la lumière, et Barabou, Isma, Aham, Bédavéh, Bédimar, afin que le peuple m'entende quand je te parle, les gammes Becha et Anunu et Olam, et quand toi aussi il y a toi. Vous avez senti la contradiction. Det prenait la fille. Au passage de la mer rouge, il est écrit « Vayamini Bashem ou Moshe Avdo ». Et là, Dieu dit « Vekambecha Yamini Neolam ». Indépendamment de tous les commentaires, ces dimensions lectives, il y en a une pour notre sujet qui est très claire. Ils avaient fini par avoir foi en Moïse comme chef politique. Mais il fallait qu'ils aient aussi foi en Moïse comme chef religieux. Le même est le drame de notre peuple, c'est qu'on fait comme s'il y a deux Moïse. On fait comme s'il y en a un qui est Philoni. Non, on fait comme s'il y en a un qui est Haredi. Et c'est ni l'un ni l'autre. Bon, ça c'est encore le sujet de Moïse. Mais je reviens, vous savez le prix à payer de ces inconséquences de l'histoire des vies. Et cela va faire, on en parlera lundi, il faut quand même savoir une chose. Les Juifs ont eu beaucoup de malheur. Mais est-ce qu'ils ne sont pas eux-mêmes responsables de leur malheur? Est-ce qu'ils n'arrivent pas à certaines occurrences, à certaines étapes de notre histoire, que les responsables de l'histoire d'Israël et du sens spirituel de l'histoire d'Israël sont eux, et pas Dieu, les responsables du malheur de l'homme? Mais pas, je reviendrai plus en détail même. Vous avez remarqué à quel point je vous répète que je ne parlerai pas de ce dont je ne parlerai pas. Et voilà donc que, d'après le deuxième verset que je vais citer, que il était nécessaire qu'un événement, ça je vais répéter deux fois, soit bien clair, à cause de la bicrite que nous avons, de comprendre l'événement a posteriori, dans l'ordre, sortie d'Égypte, juste après révélation du Sinaï. Mais c'est a posteriori que ce qui s'est passé au Sinaï, les 10 commandements, s'est passé. A posteriori de la nécessité d'habiliter Moïse comme prophète de la loi. Relisez attentivement le chapitre 19 de l'Exode, qui est cité trois fois. Primitivement, il s'agissait de transmettre un message à Israël. Vous avez une excellente histoire singulière, mais singulière au nom de l'universel humain. Vous allez donc devenir le prêtre de l'universel humain. Voilà quel était le message. Et voilà que le peuple a besoin de savoir comment on fait ça. Ça, c'est le niveau auquel on est tombé au Sinaï, après la révélation du chapitre 19. Vous savez, j'ai l'habitude de citer cela dans notre cours, à propos d'un passage de la Gada de Pessah d'Agénie. Tereva nous dit, mais Arsinal, Véonatan, Rami et Satora, d'Ayen. Si nous avions approché du Sinaï, et ne nous avait pas donné la Torah, ça nous aurait pas. Ça, c'est un slogan de la Shomer HaTzadik. Et comment nous pouvons chanter cela, nous les vicieux de Sinaï? À Pessah, si nous avions approché du Sinaï, et ne nous avait pas donné la Torah, ça nous aurait. Et alors, qu'est-ce qu'on est allé faire au Sinaï? Qu'est-ce que c'est que ce d'ailleurs? Alors, vous avez compris qu'il y a deux niveaux très différents. Approcher du Sinaï, ça veut dire nous investir comme Mamlechet Kohanim Vilui Kadosh. Mais on n'a pas été capable de savoir comment on fait ça. En Israël, on dit comment ça s'avale, comment ça se mange, comment on devient les traits de l'humanité. Et alors, on nous a donné le code, cadeau en plus. C'est clair, ça veut dire, non, on aurait dû être capable, comme les patriarches, de savoir comment on est, Israël. Il a fallu qu'on nous donne un mode d'emploi. Au point que vous avez énormément de juifs dits religieux qui utilisent le mode d'emploi de Chouanarou exactement comme un garçon de laboratoire ignorant essaye d'appliquer les ordonnances. Je ne sais pas si c'est ça ce que je veux dire. Avec une méticulosité qu'on n'arrive pas à distinguer de la maniaque. C'est un problème. Comment situer Israël, qui a besoin de garçons de laboratoire, qui a besoin qu'on explique comment on est Israël, regardez à quel point nous avons tombé plus bas que notre identité. Encore une fois, ולכן זה חקר, ואת כן תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל ישראל, נקודה. Voici les paroles que tu diras à Israël. Et Israël a besoin qu'on explique le monde d'en plus. Et ça réfléchit à mon cœur. Et je viens de découvrir que je suis filmé, alors ça m'a un peu. Laissez-moi me reprendre. Je ne finis pas ça au moins. Et alors, qu'est-ce que je disais ? Le sommeil dans sa vie. Oui, je vais vous donner l'exemple que j'ai l'habitude de donner. Imaginez un pompier à qui il faut donner un manuel pour expliquer que le feu ça brûle et que l'eau ça éteint le feu peut-être. C'est pas un pompier. C'est clair. Hein? Vous allez dire à un pompier, tu sais, le feu ça brûle et c'est l'eau qui éteint le feu. Alors ça veut dire que vous ne parlez pas à un pompier. Et si vous devez dire à Israël, voilà son code de peuple de prêtre pour l'humanité entière, pour la foi d'Israël, je ne reviens pas sur la définition, premièrement, deuxièmement, troisièmement, 613 diamants. Donc ce n'est pas Israël. Alors c'est pourquoi, à la Gaza de Pessah, on remercie Dieu, Dieu à la Hattova Kfula, le redoublement de dons, de cadeaux. Qui nous a été fait. Et d'ailleurs, je continue de Dayanou, puisque j'en parle, et on n'est pas dans l'histoire. Et vous avez les Haredim qui disent la suite. Iyou, Nassananou et Tato. Vélo, Yachnissanou, les Rétifrères, Dayanou. Et j'ai entendu. Voilà, c'est clair, hein, pas dit ça. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Il y a des gens sincères qui disent ça comme ça. C'est tout pour dire. On est habitué. A posteriori, à ce rythme des événements. Sorti des huit, Sinaï, pour faire un petit stage de, je ne sais pas comment on va appeler ça, un camp d'essai de Torah, avec comme Madrid, mon cher Abeli. Et ça nous a tellement plu qu'on a resté là-bas 40 ans. Mais tout ça, ce n'était pas prévu à priori. C'est à posteriori que c'est devenu nécessaire. Alors il faut bien se remettre dans l'ordre du récit de la paix. C'est une découverte que tous les pédagogues devraient faire. La Torah s'est mise dans l'ordre. Bereshit, Vessa, la Emekol Israël, dans l'ordre. C'est pas pour montrer la Torah à choisir cet ordre. Objection. Je suis sûr que j'entends l'objection d'en formuler. Qui a pourtant enseigné? Vous avez vu, nous sommes un peuple de savants. El Moukdam ou Moukhar va Torah. Et c'est vrai? Mais j'ai vu citer un enseignement du Zohar de Vilna sur un autre sujet apparemment, mais qui va éclairer le nôtre. Il y a dans le Zohar la phrase suivante. « Akol talui b'mazal, afini sefer Torah sebeyacha. » Tout dépend du mazal, ça veut dire finir loi du déterminisme, donc du vieillissement, même le sefer Torah sebeyacha. Le Zohar, vous savez, c'est faute. Le Zohar, il faut avoir un maître pour savoir lire. C'est des phrases très simples, très belles, comme je viens de citer, mais si on n'a pas un maître, plus qu'il y a dedans, on ne comprend rien. Et alors, le Gondelina a expliqué cette phrase que je vais être amoureux, à Kol, Talim, Bamazal, et comme on dit, Bamazal, Bamazal, à Tibou, c'est sa Torah, c'est dans l'Echal, et qu'est-ce que ça veut dire, c'est sa Torah, c'est dans l'Echal. Et s'il n'est pas dans l'Echal, il serait protégé. Mais expliquez par le mot, Sefer. Elle dit le Sefer, le livre, le signe loi du Dieu, pas la Torah. C'est clair? Il y a une différence entre Torah et Sefer Torah. Alors quand on, c'est clair, quand on lit dans la Gemara, El Mukdam Mukhar Ba Torah, on parle de la Torah, pas du Sefer Torah. Donc Sefer Torah, il y a Mukdam Mukhar. Et la Masoret a fait ce qu'elle a fait en mettant ses versets dans l'ordre. Il y a tout un qui vient à la Gemara, ça va à quel point un texte qui survit, qui n'est pas lu dans l'ordre, n'a plus de valeur. On appelle ça le mafer, à courir le mafer. Eh bien, il faut, oui, il faut lire exactement ce qu'il y a d'écrit. Effectivement, la vérité n'a pas d'ordre. la periferia lì, l'unica in sé, la fa anche Orenti, perché la nostra, non l'ho della verità. E non l'ho di Devo al mondo, la verità che ha non, storico lo dice. Non l'ho della rivelazione, la Torah che ha non, ma non la Torah. Tutte le verità sono verità finita nel mondo, eternamente finita nel mondo. Ecco che non può, perché la ragione per laquelle il y a comment, un disque une profondeur à différentes profondeurs infinies commence par dire quelque chose d'énorme. L'Orient arrive à écrire sa Torah et la mère de Dieu l'a fait. Mata an patar de vérité. La Torah ne devrait pas commencer au commencement. J'ai entendu, là c'est du mot français. La Torah ne devrait pas, pour une fois, qu'on a un livre qui commence au commencement, ainsi qu'il dit, c'est pas normal. Parce qu'il n'y a pas de commencement et de fin dans la Torah. Et c'est la raison pour laquelle, comme vous savez, à Simchat Torah, dès qu'on a fini, et bien l'inversion, on commence le premier verset tout de suite. Simplement, on se permet d'ajouter un petit manataba, que ça soit sous un bon signe. Vous le connaissez, ça. Hein? Ça rappelle une histoire. Vous avez lu les Mansi, les Solal, Albert Cohen, les Tata de la Pluie. Tata avait fait la propagande, mais c'est vraiment des polices. Et dans l'Afrique du Nord, nous avions le même genre d'unis que les unis d'Afrique du Nord. On avait discuté une blague pour défendre un peu la frontière. Une blague de ce genre. Un geste à une maison, qui avait posé une question au Talmud Torah, vraiment très, très sérieusement. Qu'est-ce qu'il y avait avant la création du monde? Personne n'a pu répondre. Et il a répondu, il y avait des petits malins là-bas. Il y avait un souhait de Dieu que ça réussisse. Et j'ai trouvé quelque part, enfin, un miracle. Alva et Tiatia. Donc, avant la création du monde, il y avait effectivement des petits malins là-bas. Bon, on va retrouver ça tout à l'heure pour un autre sujet, dans le temps. Et alors, voilà, ce serait le point de l'analyse d'une chose. Et que il y a un ordre de l'autre. On est tellement familier à ce qui s'est passé a posteriori de ce qu'il y a eu, qu'on ne sait plus dire, on ne sait plus comprendre quel était le plan premier, qui a dû être corrigé à cause des péripéties que je disais des faiblesses d'Israël qui n'étaient pas d'emblée à la hauteur du projet d'identité auquel il a été appelé. C'est bien clair. Alors que j'ai bien conscience que ceux qui l'entendent ça pour la première fois, que j'ai dit quelque chose de difficile à entendre. La révélation des 10 commandements au Sinaï était inattendue, c'était pas prévu. Le verset dit « Nishion toshé Torah ». La Torah doit sortir de Sion, pas du Sinaï. Et vraiment il était nécessaire que Dieu se révèle à Israël pour habiliter Moïse. Alors, si déjà, on a profité des 10 négros, qui sont d'ailleurs pas n'importe lesquels, qui sont d'ailleurs des négros qui récapitulent l'ensemble de la Torah, dans les principes mêmes de la Torah, de notre sujet, mais, c'est, de la chagab, si déjà, alors au moins que, on en profite. Je relisais bien, donc, le chapitre 19, et c'est sûr d'être assuré de cela, enfin, c'est pas le mot de dire, d'être bien, d'avoir connaissance de cela, que l'événement du Sinaï, comme il a eu lieu, les 10 commandements, a été nécessité par la nécessité d'habiliter Moïse comme prophète de la loi. Et que l'un seul autre, que ce Moïse-là, je voudrais bien mettre en évidence, aujourd'hui, nous avons tellement l'image de la déchirure, de la fracture entre ces deux profils des maîtres d'Israël, le chef de guerre et le rocher suivant. C'est devenu presque contradictoire dans certains milieux, alors que l'enseignement donc du chapitre 19 que l'un c'est l'autre, et le début du chapitre 20, dans à propos en particulier du deuxième mot, du premier mot du commandement. Anochi, Hashem Elokecha, Asher Otzeitzecha Melech Mitzrayim. on traduit habituellement comme s'il y avait écrit Ani Hashem Elokecha, Hashem Elokecha Moïse Israël. On traduit je suis celui qui s'est porté à vous. C'est pas ça qu'elle écrit. Ce qu'elle écrit, c'est Anochi. C'est bien moi. C'est moi qui, pas je suis. Anochi, vous. C'est moi, celui qui vous avez porté à vous. Et voilà l'intention. C'est bien moi qui vous ai fait sortir les justes qui vous donne cette loi, l'un c'est l'autre. Et ce que j'ai fait, c'est rester à vie, parce que sur la mer, ils l'ont vu comme un chef de guerre, et que sinon ils le voient comme un rejetier. Je me rapproche, c'est Zaken Malek Khami, par là on apprend qu'un rejetier doit être Zaken Malek Khami. C'est encore une incidence. Zaken, c'est-à-dire un vieillard, pas un vieux, un vieillard, ça n'a rien à voir. Malé Rachamim, plein de miséricorde. Aujourd'hui, nous avons à la tête de trop de décisions des jeunes gens pleins de hargne. Regardez à quel point nous sommes déviés, déviants. En tout cas, pour revenir au Sinaï. Qui n'a pas le nom d'habiliter Moïse comme prophète de la loi et qui, à ce propos, qu'on s'était révélé et donné les deux tables de la loi. Or, qu'est-ce que c'est que alors là, je vais faire d'abord une première analyse donc historique appuyée sur la structure du calendrier. Et je vais la faire très automatique. Et ensuite, nous essayons de réfléchir à la signification profonde, d'après un schéma d'enseignement de la Kabbalah, de la structure de ce calendrier. Ensuite, je pense tout de suite la première la question créée deux fois, l'étape de la loi. Pourquoi il était nécessaire d'avoir les premières tables, les coups suivants, et les deuxièmes tables par là. Nous mènera à l'enquête. Et ensuite, nous aborderons, en fin d'étude, la signification des deuxièmes tables. Quelle différence y a-t-il entre les deuxièmes tables et les premières tables? Il y a énormément de différences, énormément de sujets, les dimensions du problème, entre deux et une, au niveau de la signification. Par rapport à la relation entre l'homme comme conscience libre, comme conscience morale, soumise au devoir et la loi. Et bien d'abord, le schéma historique. Voici ce qui s'est passé historiquement. Et bien voilà. Le six Sivan, donc 50 jours après la Constitution, le six Sivan, il y a révélation. Moïse, j'entends des murs qui sont cette chose-là. J'entends un supplément fait. Zéro la âme. Ça va mieux? Non. Comme ça? Très bien. Eh bien, le festival, donc, il y a eu l'événement de la révélation du Sinaï, et Moïse reçoit les deux tables, et avec les deux tables va commencer cette révélation du Sinaï. C'est donc Matan Torah, le Zotav, va commencer une période de 40 jours où Moïse sur la montagne reçoit l'ensemble de la Torah et l'étudie avec Dieu comme maître. C'est pourquoi d'ailleurs il y a un commentaire que je vais citer qui dit lorsque dans la première Mishnah du Kerkavot, on dit Moshe qui donne Torah Mishnah, pourquoi on ne dit pas Moshe Rabbeinu? C'est parce que là-bas il n'était pas le maître, il était le maître. Alors on dit Moshe. D'ailleurs il y a relié à un autre enseignement du Talmud, pour qu'on parle de cela, il y a différents niveaux de dignité rabbinique. Le plus haut niveau, on donne plus de titres, c'est Shmo, son nom. Il y a, comme vous savez, il y a dans l'autre, c'est Rubi. Rab. Il y en a deux, Rubi et Rabbi, Rabban, et Gadol et Rabban, Shmo. Et vous savez, les grands d'Israël, comme par exemple, c'est encore une dira, pas tellement. Je me suis toujours demandé pourquoi le bien qui va s'appelle bien qui va. Pourquoi ça fait bien Rabbi Akiva? C'est parce qu'ils sont donnés Akiva plus haut que Rabbi Akiva. Akiva. Donc je reviens à cette terre. Et voilà donc au chiffre Sivan, il y a la révélation des premières étapes. Comment cette période de 40 jours où Moïse est sur la montagne, il a donné rendez-vous au peuple, je vais redescendre. N'ayez pas peur, je reviens. Et il a tardé. Il a tardé. Il est en train de demander comment. ריבונו של העולם, והיה הרמתי בושש, משה, אל תקשר, בושש אלא בשש, הרדמתי, אין לי שיהיה רדמתי, הרדמתי.